Les ignorants sont bénis.
Radio Campus. La science infuse.
Et vous êtes bien sur La science infuse sur Radio Campus Orléans 88.3. C'est l'émission qui vous fait aimer les sciences. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Billy.
Salut Quentin.
Ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Eh ben ça va très très bien. On va passer une bonne heure ensemble. Tout d'abord, on va parler des actualités scientifiques de la semaine. Ensuite, on va enchaîner avec une interview de Carole Châtelain, qui est la présidente de l'Association des journalistes scientifiques de France. Okay. Et on parlera traitement médiatique de l'urgence écologique en sa compagnie. Ensuite, on enchaînera avec un de tes reportages sur pourquoi le rejet de greffe et les solutions possibles.
Yes, totalement. Ouais. Ce serait vraiment tourner plus sur un peu le fonctionnement de la greffe et après essayer de trouver une solution, en l'occurrence la thérapie cellulaire.
Et voilà. Tu nous en parleras dans quelques minutes.
Bien évidemment. Ouais.
Et on fera également un petit jeu. Et tout d'abord, une petite musique, Baptiste Lagrave à Menton.
Yeah.
Et maintenant, nous allons passer aux actualités scientifiques de la semaine. La première actualité, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu un verdict qui est historique et qui peut être une grande avancée pour la lutte contre le changement climatique. C'est pour la première fois de son existence, la Cour a statué qu'un État peut être tenu responsable de ne pas protéger assez efficacement ses citoyens contre les effets du changement climatique. En l'occurrence, c'est la Suisse qui a été condamnée. Et c'est grâce à un groupe de 2500 femmes âgées de plus de 64 ans que la Confédération helvétique a été condamnée par la Cour parce qu'elle ne protège pas assez ses citoyens. Donc en fait, elle est accusée de ne pas mettre des politiques adéquates pour protéger leur santé contre les effets néfastes du changement climatique et en particulier l'augmentation des températures. Donc cette mesure nous rappelle l'affaire du siècle qui a eu lieu il y a quelques années en France et c'était un recours engagé par 4 ONG, Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, qui avait abouti à une condamnation de l'État pour inaction climatique en mars 2019. La deuxième grande actualité scientifique de la semaine, c'est le décès du physicien Peter Higgs, qui est le père du boson. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en fait, en 2013, ce scientifique a reçu le prix Nobel, et c'est 50 ans après la découverte du boson dans ses travaux de 1964. Et qu'est-ce que c'est le boson de Higgs ? C'est une particule qui est surnommée la particule de Dieu, et qui est une clé essentielle de la compréhension des constituants élémentaires de tout l'univers. Cette découverte elle a permis d'avancer sur le modèle standard de la physique, car avant le boson de Higgs, la théorie était que les particules élémentaires ne possédaient pas de masse. Et maintenant, on sait que grâce à cette particule, il y a un champ qui permet aux particules élémentaires, quand elles rentrent de ce champ, d'acquérir une masse. Et c'est notamment pour ça que les atomes ont une masse. Et maintenant, nous allons passer à une interview de Caroline Châtelain sur le traitement médiatique de l'urgence climatique. Je reçois aujourd'hui une ancienne directrice de la rédaction de Sciences et Avenir et de Sciences et Avenir la Recherche et actuelle présidente de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Bonjour, Carole Châtelain.
Bonjour.
Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous définir qu'est-ce que le journalisme scientifique ?
Le journalisme scientifique, c'est un journalisme qui, par définition, s'occupe de science. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui soit ont une formation scientifique et qui donc ensuite ont bifurqué vers le métier de journaliste, soit ce sont des journalistes qui s'occupent de sujets scientifiques. Et donc notre association a pour but de les réunir, de créer un réseau, comme toute association. Et nous sommes la plus grande association de France, puisque nous avons près de 300 adhérents. Nous sommes tous médias confondus, c'est-à-dire radio, télé, presse écrite, internet, réseaux sociaux, et nous représentons tous les métiers concernés par la presse, à savoir le journalisme écrit, le secrétariat de rédaction, la photographie, etc., etc. Et nous sommes toutes générations également confondues, puisque nous avons pas mal d'étudiants également qui sont adhérents chez nous.
Ok, donc cette interview va surtout être centrée sur le climat et sa médiatisation. Et dans le 6e rapport du GIEC, ils insistent énormément sur le rôle crucial des médias pour cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique. Est-ce que vous avez l'impression que l'information sur le changement climatique et les journalistes scientifiques sont assez représentés dans le paysage médiatique français ?
Alors, je vais vous faire une réponse plutôt historique, c'est-à-dire que ça fait des années et des années et des années que les journalistes scientifiques travaillent sur ce sujet. Ça fait des années qu'ils suivent les rapports du GIEC, ça fait des années notamment que les magazines et autres émissions spécialisées parlent de ces rapports, parlent du changement climatique. Et ça fait des années qu'on prêche un peu dans le désert. Mais depuis quelques temps, on va dire depuis quelques années, on se rend compte que c'est un sujet qui a enfin réussi à émerger et qui est désormais, il nous semble, compris dans les médias.
Oui, notamment avec la charte journalistique pour l'urgence du climat depuis 2022. Vous avez l'impression qu'il y a quand même une accélération dans la dynamique justement pour la médiatisation de ce sujet ?
Oui, vraiment, clairement. Je pense que ça y est, tout le monde a compris que c'était un enjeu majeur. Ça ne veut pas dire que pour autant on agit, mais tous les journalistes qui ont travaillé sur ces sujets n'ont désormais plus l'impression de prêcher dans le désert comme ils l'ont eu autrefois.
Vous avez l'impression qu'il y a une différence dans les rédactions au niveau des rubriques, justement, que ça soit plus dans une seule rubrique, mais que ça soit transversal, le sujet du climat?
Oui, maintenant c'est devenu transversal, c'est-à-dire que même les journalistes, entre guillemets, généralistes, s'emparent du sujet. Alors ça pose d'autres problèmes, parce que on parle, le climat c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est de la météo, c'est de la physique des fluides, etc. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et le problème, c'est sans doute une question aussi de formation. Des journalistes qui se sont emparés de ces sujets, il faudrait que nous, en tout cas à l'AGSPI, nous militons pour que dans toutes les rédactions il y ait des référents sciences, où d'ailleurs nous avons des accords notamment avec Radio France pour former les journalistes aux techniques scientifiques, parce qu'il y a une méthode scientifique à suivre, et notamment le biais que on peut voir quand on n'a pas une formation scientifique, c'est par exemple un déséquilibre dans la recherche des sources. Si vous permettez, je développe un petit peu, c'est-à-dire que ça y est, le grand public a compris qu'il y a consensus autour du réchauffement climatique, mais vous avez toujours des climato-sceptiques. Et la tendance pourrait être de donner la parole à ces climato-sceptiques, mais ça n'est pas éthique, parce que c'est déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a consensus autour de ce sujet aujourd'hui, et ce n'est pas parce qu'il y a 3 ou 4 Pelé et Intondu qui disent le contraire qu'il faut aller vers eux. C'est peut-être le risque actuellement, ça serait de un peu trop donner la parole à ceux qui ne représentent rien.
Ok, bah oui, justement, c'est selon l'Ipsos, il y a 37% des Français qui sont climato-sceptiques et 29% d'entre eux vraiment considèrent que le changement climatique n'est pas d'origine humaine. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend, et à votre avis, pourquoi il est si élevé, justement, comme il y a un consensus scientifique à côté?
Oui, il est surprend dans le mauvais sens, puisque effectivement, nous travaillons à faire comprendre l'inverse. De toute façon, il y a une défiance actuellement envers les médias, une défiance envers les journalistes, qui est due bien évidemment à la multiplication des sources d'informations et aux fake news. Donc tout ça contribue. Il n'empêche qu'une autre étude montre que les journalistes scientifiques sont plus crédibles pour les Français que la majorité des autres scientifiques. Donc nous tirons, et heureusement, notre épingle du jeu, mais tout notre travail, parce qu'on a bien conscience qu'il est loin d'être fini, c'est de continuer à expliquer ce qu'est le changement climatique.
Ah bah justement, je pense que vous parliez sûrement de l'étude de la Fondation Descartes, justement.
Tout à fait.
Où beaucoup de Français, justement, considèrent que le traitement médiatique, il n'est pas assez pédagogique. Donc est-ce que vous avez des pistes peut-être de comment on pourrait faire en sorte que ça soit plus pédagogique et que les gens assimilent mieux l'information?
Je pense que c'est par la répétition. La pédagogie, ça passe déjà par la répétition et évidemment par la vulgarisation, c'est-à-dire par l'explication. Alors il y a des médias qui sont spécialisés dans ce domaine. Je prends des médias comme Science et Vie, Science et Avenir. Ça m'intéresse. Ce sont des magazines qui depuis des années travaillent ces sujets-là et les font le plus clairement possible. Science et Vie Junior également. Epsilon, le nouveau venu de la presse écrite, mais il y a également beaucoup d'émissions de radio, la Terre au carré, qui abordent ces thèmes-là. Je pense qu'on arrivera à expliquer par la répétition, parce que ce sont des sujets très complexes qu'on arrive bien à vulgariser désormais. Enfin, on a bien les outils, on a bien les infographies, on a bien tous les chercheurs qu'il faut pour cela, parce qu'il faut aussi trouver des chercheurs qui soient capables d'expliquer de façon simple des choses extrêmement complexes. Ça passera aussi par la curiosité des Français, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils aillent chercher l'information. Donc nous la proposons en tout cas, et c'est aussi aux Français de s'intéresser vraiment à ces sujets et d'être eux-mêmes un petit peu enquêteurs, à savoir discerner les bonnes sources des mauvaises sources.
Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a énormément de fake news qui circulent, et autant les médias, qui restent quand même la première source d'information pour les Français, offrent une information de très bonne qualité, mais il y a énormément de Français qui vont se renseigner sur les réseaux sociaux, où il y a tout un système de boucles, ils vont voir tout le temps les mêmes informations, et forcément, statistiquement, ils vont être exposés à beaucoup plus de contenu climato-sceptique. Est-ce que vous avez des idées de comment justement on pourrait essayer de combattre ces fake news en particulier sur les réseaux sociaux en tant que journaliste scientifique?
Alors c'est un combat que nous menons tous, les journalistes, que nous soyons scientifiques, enfin, que nous nous occupions de science ou pas. C'est un combat que nous menons également à travers le développement de l'intelligence artificielle, qui nous préoccupe énormément et qui nous préoccupe aussi pour ça, parce que les algorithmes, comment s'assurer que les algorithmes ne vont pas aussi générer des fake news? Je prends Un exemple, il y a une plateforme qui s'appelle PubPeer qui recense les études rétractées, c'est-à-dire que quand un chercheur, une équipe de chercheurs fait une étude, il est normal qu'elle soit vue par les pairs, qu'elle soit critiquée et parfois qu'elle soit retirée parce qu'elle a des erreurs. 18 000 de ces, cette année, 18 000 études ont été retirées. Est-ce que les intelligences artificielles sauront distinguer celles qui ont été retirées de celles qui ne l'ont pas été? Donc nous, à notre façon, c'est bien par le travail humain, par le travail journalistique, par la formation scientifique, parce que par exemple lire une étude scientifique, ça n'est pas donné à tout un chacun. Il faut savoir ce qu'est un premier auteur par rapport à un dernier auteur, il faut évidemment maîtriser un certain langage, il faut savoir chercher dans les bonnes bases de données, et tout ça, pour nous, ça reste humain. C'est-à-dire que le journaliste a toujours son rôle. Et il ne faudrait pas que les rédactions, pour des raisons économiques peut-être, décident de supprimer quelques postes en se disant que l'IA fera le travail. L'IA ne fera pas ce travail de tri entre les fake news et les vraies informations.
Du coup, je vais rebondir sur l'intelligence artificielle. Le Monde récemment a fait un accord justement avec l'intelligence artificielle. Est-ce que justement pour le journalisme scientifique, vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant que ce soit étendu avec d'autres médias pour, on va dire, vérifier l'information au niveau de ces intelligences artificielles?
Alors, nous sommes dans l'expectative parce que nous ne connaissons rien des accords que Le Monde a passés avec OpenAI, donc avec une plateforme, celle qui génère ChatGPT, le plus connu des outils d'intelligence artificielle, le plus connu du grand public. Nous ne connaissons pas les termes de cet accord, sauf que nous savons que ChatGPT va être autorisé à puiser dans la masse des articles du Monde, et quand on échange, Le Monde citera ses sources. Mais nous nous interrogeons pourquoi est-ce que Le Monde passe ses accords seul, pourquoi est-ce qu'il n'est pas monté au créneau avec d'autres médias, pourquoi on aurait peut-être été plus fort si nous étions montés à plusieurs, pourquoi avoir choisi cette plateforme américaine. Il y a des questions de souveraineté qui se posent, parce que l'Europe aussi, mais au point des IA, il y a des questions aussi d'éthique, il y a des questions de droit d'auteur pour nous les journalistes, il y a énormément de questions qui se posent sur cet accord. Et là, nous sommes dans l'interrogation pour l'instant. La GSPI a écrit tout à fait récemment une lettre ouverte à la directrice de France Télévisions pour l'alerter, parce que au moment où on a besoin de scientifiques et de journalistes scientifiques, on constate que la télévision publique supprime les émissions scientifiques, notamment le journal de la santé, le magazine de la santé qui va disparaître. La grille de la télévision publique s'appauvrit côté science, et nous, ça nous inquiète beaucoup parce que les études montrent bien que, au contraire, on a besoin de science pour s'y retrouver dans ce nouveau monde là, qui s'ouvre à nous et qui se développe à une allure extraordinaire.
C'est vrai que c'est assez terrifiant, parce qu'en plus on a vu que depuis le Covid, là, il y a une hausse des climato-sceptiques partout en France quand même, et c'est assez désespérant.
Heureusement, les journalistes qui ont une bonne formation et qui savent de quoi ils parlent savent repérer les bonnes sources.
Alors, pour terminer cette interview, j'aimerais vous poser une question assez large. Comment envisagez-vous l'avenir du journalisme scientifique ?
Pour nous, l'avenir du journalisme scientifique est radieux, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus technique et technologique. Nous avons besoin de décryptage de plus en plus, parce qu'en plus, on parlait d'intelligence artificielle, ce sont des boîtes noires, il faut absolument aller voir ce qu'il y a dans ces algorithmes. Donc quand je dis radieux, c'est-à-dire qu'il y aurait tout un pan qui est favorable au développement du journalisme scientifique. Ici, nous sommes aux Assises internationales du journalisme de Tours, qui traite de sport. Même dans le sport, tout est science, que ce soit les matériaux, que ce soit les performances individuelles et humaines, que ce soit les performances des outils qui sont employés en football, tout ce qui est visio pour vérifier le jeu. On peut aussi avoir toujours dans le sport une vision scientifique sur le trajet d'une balle, par exemple, une balle assez surprenante en football pour s'expliquer par des physiciens. Enfin, la science est partout. La science est dans tous les domaines, vous parliez de climat, mais elle est dans le sport, elle est dans l'air santé, elle est évidemment partout. Donc avoir une bonne formation scientifique, s'intéresser à la science et être un journaliste scientifique, même dans les sciences dures, on a besoin de journalistes dans les sciences dites dures, c'est-à-dire la physique quantique, la physique, l'astronomie. Il ne faut pas oublier ces disciplines-là qui sont extrêmement importantes. Donc il y a une grosse demande de journalistes scientifiques pour peu que les rédactions veuillent bien les accueillir et veuillent bien ne pas réduire les cases.
Merci beaucoup, Carole Chaffin.
Merci à vous.
Honest, gotta be true. You ain't gotta be them, you just gotta be present. Gotta be you. You just gotta be you. You just gotta be.
It's alright, it's okay. It's alright, they're not you, no way. It's alright, it's okay. It's alright, they're not you, no way. It's alright, it's okay. It's alright, they're not you, no way. It's alright, it's okay. It's alright, they're not you, no way.
You was in the back of the joint, cooling out with the fam or the tribe, cause I like it like that. You get caught with a really dope beat and a really dope flow, you can never fight back. When I step out and I'm looking like me, and I say one word but the crowd go mad. Only came out to show that they wrong when they hear and they say that the vibe won't last. Please, it's forever end. Be love, show love, that's forever plans. Cause ain't no fun if you stuck on a wall, and life ain't full if you never dance. We get caught with a really dope beat and a really dope flow, you can never fight back. When I step out and I'm looking like me, and I say one thing but the crowd go mad like this. Feel like dancing.
Oh, word.
Feel alright,
oh word.
You can try to buy that feeling, but it's no fair, no price. Live it like nobody's watching. Dream feels real all night. This'll make you feel like dancing. This'll make you feel alright. This'll make you feel like dancing. This'll make you feel alright. You can try to buy that feeling, but it's no fair, no price. Live it like nobody's watching. Dream feels real all night. This'll make you feel like dancing. This'll make you feel alright.
Not for me. I can see the passion, the fear in your eyes, and you're staring, it's there for all to see. Don't front, you can feel the magic. Don't fight the feeling, it's here it happen. Both sides can feel it, the clear attraction. Don't stand there, move in a fearless fashion. In your soul, only there's one way to go. Present really only the one place to be. Everything you wanted is in the unknown. Get all the money we spend to be free. Work for a fee for enough that we earn what we know we deserve, but it's never like that. When I step out and I'm looking like me, and I say one thing, but the crowd go mad like this.
Feel like dancing.
All work.
Feel alright,
oh,
you can try to buy
that feeling,
but it's no fair, no price. Live it like nobody's watching. Dream feels real all night. This'll make you feel like dancing. This'll make you feel alright. This'll make you feel like dancing. This'll make you feel alright. You can try to buy that feeling, but it's no fair, no price. Live it like nobody's watching. Dream feels real all night. This'll make you feel like dancing. This'll make you feel alright.
C'était Feel Alright de Brooke Rogers.
Donc du coup, bien le bonjour, c'est Billy du coup à l'appareil. Et je suis donc là pour présenter la thérapie cellulaire, une pratique d'avenir pour pallier à la greffe d'organes. Un sujet peu présent, si ce n'est pour dire absent dans la vie générale, mais qui je pense pourrait être assez présent, voire même omniprésent dans la vie future. Car ça peut être une avancée médicale très 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 intéressante, ce qu'on va voir tout de suite. Dans mon cas, je m'y suis intéressé après avoir lu un article scientifique à propos des greffes, où j'ai appris que chaque année en France, plus de 28 000 Français sont en attente d'une greffe pour remplacer un organe défaillant dont la fonction peut être vitale, comme un rein, le foie, le cœur ou les poumons. Néanmoins, 3% de ces patients décèdent chaque année, faute d'avoir obtenu à temps la greffe espérée, soit environ 1 million de personnes qui décèdent impuissants chaque année dans l'espoir de simplement attendre une greffe d'organe, comme le rapporte en 2022 l'Agence de biomédecine. Un constat assez alarmant, sachant que ces patients sont condamnés à seulement espérer un don d'organe miraculeux, comme j'ai dit auparavant. Et c'est donc dans cette optique-là, de trouver une solution pour pallier aux contraintes liées à la greffe, que je suis tombé sur la thérapie cellulaire, de la médecine régénérative, encore en voie de recherche, permettant de réparer un tissu malade par l'utilisation de ses propres cellules, obtenues en laboratoire, enfin, il y a eu un travail fait de son propre cellule en laboratoire pour pouvoir les adapter, et ainsi se substituer à la greffe d'organes. Excusez-moi. Mais avant tout, je pense qu'il peut être assez intéressant de se plonger sur les inconvénients de la greffe et comprendre pourquoi on a besoin de se substituer à la greffe. Car, en effet, la greffe d'organes présente plusieurs défauts. Vous me demanderez, quel défaut, Billy ? D'une part, il n'est pas facile d'obtenir un greffon, du moins instantanément. Et dans certains cas, ça peut prendre jusqu'à 5 ans à parvenir. Car, en effet, nous faisons face à une pénurie d'organes, due au faible nombre de dons d'organes, que l'on peut attribuer à un faible nombre de donneurs, genre, il y a moins de volontaires ces derniers temps, et également à la population vieillissante, dont l'âge de décès est de plus en plus reculé, environ 80 ans pour la population générale en France. Pour le bonheur des uns et le malheur des autres, comme on peut le voir dans notre cas. À titre d'exemple, en 2021, il n'y a eu que 1600 donneurs de greffons, dont seulement 500 de donneurs vivants, et les 1100 autres de donneurs décédés. Donc vraiment, la part de personnes décédées joue un rôle très important dans le don d'organes. Leur don d'organes a pu permettre de greffer environ 5276 personnes cette année-là, soit seulement 19% des patients en attente de greffe chaque année. Néanmoins, admettons qu'il soit possible de vous greffer miraculeusement cet organe dont vous avez tant besoin, comme c'est le cas pour environ 5000 personnes chaque année en France. En général, pour qu'une greffe de tissu fonctionne, il faut que donneur et receveur soient compatibles sur le plan immunologique. Excusez-moi. On dit qu'ils partagent des gènes d'histocompatibilité, qui vont en quelque sorte définir le degré de compatibilité entre deux individus, pour savoir s'ils pourront plus ou moins se partager des organes. Si j'entre un peu plus dans les détails, ces gènes d'histocompatibilité sont situés sur notre sixième chromosome et servent à coder le CMH. Ce CMH, ou complexe majeur d'histocompatibilité, ou bien HLA encore dans le cas de l'homme, pour Human Leukocyte Antigen, est une structure transmembranaire de la cellule, donc située un peu sur sa membrane, qui permet à la cellule d'exposer à sa surface ses peptides, des fragments de protéines en quelque sorte, aux lymphocytes T, des cellules du système immunitaire qui vont analyser ce HLA. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal là, je comprends pas trop pourquoi. Mais en quelque sorte, qui vont analyser ce HLA de ces cellules pour pouvoir les reconnaître, de façon à pouvoir dire si ce sont des cellules du soi ou du non-soi. En quelque sorte, pour vous faire un petit résumé, ce HLA est la carte d'identité de la cellule qui lui permet d'être reconnue par le système immunitaire et de ne pas être vue comme une bactérie, et donc détruite. Le problème de cette greffe, c'est la réaction de rejet. Car oui, la particularité du HLA, c'est qu'elle est codée par différents gènes. On dit donc que le HLA, l'expression du HLA, est multigénique. Il existe trois gènes d'histocompatibilité, Et on ajoute à cela que chaque parent va chacun amener son gène. Donc pour les trois gènes-là, tu peux avoir 6 versions différentes. Et c'est un énorme problème, puisque c'est donc presque impossible d'avoir un schéma identique entre deux individus. Et c'est là que le problème du rejet de la greffe apparaît. Car en effet, le rejet de greffe est une réaction immunitaire du corps qui ne reconnaît pas les cellules, ou plus globalement un organe greffé, comme lui appartenant, mais plus comme un être extérieur. Ce qui est en réalité vrai, le corps ne va pas... Enfin, le corps voit un organe greffé comme... Bah, il se demande juste d'où tu viens, d'où tu viens, tout simplement, et il va chercher à le détruire parce qu'il va penser que c'est un être pathogène, tout simplement. Et donc, je pense... Enfin, c'est pas je pense, c'est actuellement le cas. C'est là que les médicaments contre la réaction de rejet apparaissent. Puisque c'est dans l'optique de calmer cette réponse immunitaire que les patients sont soumis à un traitement à base de médicaments immunosuppresseurs, mais à la contrainte que, d'une part, ils devront prendre ces médicaments jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est vraiment très conséquent et très fatigant sur le long terme. Mais c'est surtout que, comme leur réaction immunitaire va être diminuée pour éviter le rejet de greffe, ils seront bien plus susceptibles d'attraper d'autres maladies, bien plus bénignes, mais qui pourront faire beaucoup plus de dégâts parce que leur système immunitaire sera amoindri. Et c'est donc comme ça, en voulant chercher une solution à ces problèmes qui entraînent la greffe, que je suis tombé sur la thérapie cellulaire. Cette dernière consiste à greffer des cellules saines pour restaurer la fonction d'un tissu ou d'un organe. Ces cellules saines sont spécialisées, donc par exemple, on va dire les cellules de la peau, mais grâce à des processus que je vais un peu plus détailler plus tard, on va réussir à les faire revenir à l'état de cellules souches. Donc une cellule souche, c'est une cellule qui a la particularité de pouvoir s'auto-renouveler par mitose et de pouvoir se différencier en plein d'autres cellules, par exemple les cellules de la peau, les cellules, enfin les cheveux, enfin, plein de cellules. Et donc du coup, c'est en ça que la thérapie cellulaire peut être intéressante, puisque si tu es capable de refaire des cellules à partir de tes propres cellules, tu pourras les greffer pour réparer un organe malade, tout simplement. Ce qui nous intéresse ici, dans le cas des cellules souches, ce sont les iPSC, ou cellules souches pluripotentes induites. Des cellules souches créées artificiellement à partir de cellules spécialisées, donc en l'occurrence les cellules de la peau, et ces cellules spécialisées vont subir un processus de reprogrammation au laboratoire pour venir au stade de cellules souches pluripotentes, en injectant des gènes comme OCT4, permettant la dédifférenciation et par la suite de les respécialiser en d'autres cellules que l'on pourra greffer aux patients. Excusez-moi. Cette avancée fut permise par le scientifique Yamanaka, qui a reçu un prix Nobel en 2012 pour avoir identifié 4 gènes facteurs de transcription qui permettent de stimuler l'expression de protéines qui redonneront la pluripotence à la cellule. Mais je pense que certains ici doivent se demander, mais qu'est-ce que c'est la transcription ? Donc la transcription, en quelque sorte, consiste en la copie du matériel génétique en information codée, contenue dans une molécule d'ARN messager. Et donc, suite à ça, permettre la synthèse de protéines. Donc, on va dire en quelque sorte que c'est le message génétique qui va permettre, qui va un peu dicter comment synthétiser une molécule, une protéine plus précisément. Donc, c'est bien beau tout ça, de pouvoir obtenir à partir de cellules iPS spécialisées comme les cellules de la peau, comme j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure. Mais il faudrait qu'on arrive à spécialiser, à introduire ces fameux gènes dans la cellule pour la reboot. Et donc du coup, pour introduire ces gènes dans la cellule spécialisée, on va mettre ces gènes de transcription dans un virus. Donc du coup, on va mettre ces gènes dans un virus et ce virus-là va aller infecter la cellule qu'on cherche à remettre au stade de cellule souche. Et du coup, cette cellule qui va être infectée va revenir à son stade de cellule souche. Et ensuite, c'est là que se s'opère un peu la limite qu'on a aujourd'hui, on va essayer de la redédifférencier en la cellule qu'on cherche. Par exemple, on va prendre des cellules de la peau, et ces propres cellules de la peau, on va y injecter un virus dans lequel il y aura les gènes, par exemple, OCT4. Et suite à ça, après cette infection, la cellule va redevenir une cellule souche, donc plus précisément une iPSC. Et suite à ça, on va essayer de la refaire dédifférencier, mais en des cellules qui nous intéressent. Donc, par exemple, on va dire, des cellules pour les cheveux, par exemple. Et c'est là que c'est bien la thérapie cellulaire, puisque ça permettrait d'obtenir, à partir de ses propres cellules, des cellules souches qui pourront se différencier en des cellules spécialisées, et donc utilisées pour restaurer des cellules défectueuses, des tissus, voire même reconstruire un organe, comme le cœur. Donc, c'est incroyable, c'est énorme. Et cela permettrait donc de réduire drastiquement, voire même enfin, juste mettre à zéro les listes d'attente de greffe, et d'éviter les risques d'incompatibilité, comme ce sont le cas aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui avec la greffe d'organes. J'insiste bien sur le point d'utiliser ses propres cellules, puisque ça permettrait de ne plus avoir à prendre de médicaments, car le système immunitaire va reconnaître ses cellules comme ses propres cellules. Et donc du coup, va pas commencer à se dire « mais t'es qui toi ?» et à vouloir le détruire, à lancer des lymphocytes T4 pour vraiment... Enfin, lymphocytes T8, excusez-moi, lymphocytes cytotoxiques pour essayer de détruire l'agent extérieur, enfin l'organe extérieur. Donc, on a pu un peu faire le point sur la fonction et comment on pourrait utiliser la thérapie cellulaire, mais à l'heure d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On arrive à obtenir ces iPSC, mais ça reste assez compliqué, puisque cette reprogrammation des cellules spécialisées en cellules souches n'est efficace qu'à 25%. Donc du coup, il faut se rendre compte que pour 100 cellules prélevées, tu n'en auras que 25 que tu réussiras à remettre au stade de cellules souches. Parce que le problème, en fait, c'est qu'il faut éviter les mutations des cellules lors de la reprogrammation cellulaire, qui pourrait modifier totalement la nature de cette cellule et probablement causer un cancer. Parce que si la cellule, finalement, au lieu de juste la rendre au stade du cellule souche pour pouvoir l'utiliser plus tard, tu la retransformes juste en une cellule cancéreuse, je suis désolé, mais je ne vois pas forcément l'avancée. Et du coup, c'est un peu là que ça coince. Mais pour conclure, malgré le fait que cette technique ne soit pas encore totalement aboutie et maîtrisée à l'échelle générale, il n'empêche qu'elle reste une avancée majeure dans le domaine médical qui, si elle aboutit, permettrait de sauver des vies sans faire de greffe d'organes, condamnant à prendre des immunosuppresseurs toute sa vie. Sachant surtout qu'il existe déjà des thérapies basées sur ce fonctionnement qui ont déjà été approuvées, comme l'utilisation de cellules souches pour reconstruire des feuilles d'épinerve, donc du coup la peau. Je n'arrête pas de dire le mot peau depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment un exemple qui est pris et repris parce que c'est un peu ce qu'on utilise actuellement au laboratoire et qu'on pratique à l'heure d'aujourd'hui. Et donc du coup, pouvoir greffer ces feuillets d'épiderme à des grands brûlés qui pourraient ainsi retrouver une peau saine et bien. Pour faire ce reportage-là, je me suis basé sur des sources telles que l'Agence de biomédecine française, l'INSERM et Futura Science. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée.
Eh bien, merci beaucoup Billy pour ce super reportage. J'ai appris énormément, vraiment. Et maintenant, on se retrouve tout à l'heure pour le petit jeu.
Yes.
Et maintenant, Sodad Remix de Bonga.
Quem mostra pues caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra Santo Tomé. Soldado, 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 desci a terra de Cabo Verde. Soldado, 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 desci a terra de Cabo Verde. Si vos escribim, te escribim. Si vos esquecem, te esquecem. Até dia e não voltar. Si vos escribim, te escribim. Si vos esquecem, te esquecem. Até dia e não voltar. Soldado, soldado, soldado. Desci minha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado. Desci minha terra de Cabo Verde. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Tá esquecer, pode dia que não voltar. Escrevim, tá escrevim. Se vou esquecer, tá esquecer. Tá esquecer, bate dia que não voltar. Soldado, soldado, soldado. Essa é minha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado. Desce minha terra aqui de Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra Santo Tomé. Soldado, 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 desci a terra de Cabo Verde.
Bien maintenant, Soldat remix de Bonga, nous sommes de retour pour un petit jeu et nous avons une personne en plus.
Oh oui, c'est moi, bonjour, je suis Erwan.
Salut Erwan, ça va ?
Je vais bien, et vous deux ?
Eh ben oui,
ça se passe bien l'émission jusqu'à maintenant ?
Génial.
Ça se passe très bien.
On a infusé plein de choses. On a infusé des choses scientifiques, une tisane de science.
On a essayé de mettre la patate.
Et alors, vous avez mis la patate ou la carotte ?
Les deux, parce que moi j'ai appris énormément avec le reportage de Billy.
Ah ouais?
J'ai grave kiffé l'interview, vraiment. Je trouve plus que la dame s'exprimait bien, vraiment pas de problème. Et même Quentin, Ouais. Il rebondissait sur des points. Je me suis dit, mais...
Quel journaliste de tonnerre.
C'est génial.
C'est vrai que c'était super intéressant. Alors là, je vais vous poser quelques questions. Donc, c'est des questions tournées sur l'environnement. Est-ce que vous êtes calé sur l'environnement?
Ouais.
On se débrouille.
Ok, bon, bah, parfait. On va y arriver. Donc, souvent, on parle de bilan carbone et on parle des pays qui émettent le plus d'émissions carbone. Donc, c'est assez classique. Hein. C'est la Chine, les États-Unis et l'Inde.
Il nous a donné toutes les bonnes réponses.
Ah, là, génial. Aujourd'hui, on est question positive. Donc là, ça va être bonne nouvelle.
Ok.
Donc, on va parler des pays qui émettent le moins. Alors, je peux vous faire trois propositions, mais est-ce que vous avez déjà une petite idée peut-être?
Ouais, je dirais qu'il y a ce pays, le pays où on dit qu'ils sont le plus heureux,
La Finlande, non?
Non, pas la Finlande. Un pays genre pas loin de l'Inde, je crois, si je dis pas de bêtises, Boutistan, non. Plus.
Le Pakistan?
Non, c'est pas le Pakistan, c'est le Bhoutan.
Oui. Oh, oui. Il est dans les propositions.
Franchement,
t'as été bon, ouais.
Bah, le Bhoutan.
Bon, moi, je serais plus parti sur la Finlande, parce que je sais que c'est un pays qui gère plutôt bien ses consommations et qui fait beaucoup, qui a une vraie politique de recyclage et vraiment qui va bien gérer ça.
J'adore ce qui se passe, parce que dans mes trois propositions, vous en avez cité deux. La Finlande.
Est-ce qu'on n'essaierait pas d'essayer de trouver la troisième proposition?
Parfait.
Alors, je peux vous définir à peu près
le pays, le troisième pays.
Je peux vous donner la capitale du troisième pays.
Vas-y.
Okay. San José. C'est pas facile du tout.
San José.
C'est pas San Juan.
C'est San José la capitale. C'est une île.
Ah. C'est l'île où il y a eu un embargo pendant plusieurs décennies.
C'est pas très loin.
C'est pas très loin.
C'est pas très loin de Cuba en effet, mais ouais. c'est un peu plus au nord de Cuba. Alors c'est une île. Je l'ai mis dans mes propositions parce que c'est un des pays les plus écologiques du monde, avec une grande.
Costa Rica.
Mais voilà, incroyable.
Arrête.
Donc, sur les trois propositions, ouais. Est-ce que vous voulez que j'en enlève une déjà?
Non, vas-y, on joue avec les trois.
Ça fait du bien.
Donc, Bhoutan, Finlande ou Costa Rica.
Costa Rica, voilà.
Ok.
Les trois continents sont représentés, c'est pas mal.
Ouais. Ok.
Et je peux vous donner des arguments pour chaque pays, si ça peut vous donner des indices.
Bah déjà, moi, je sais que c'est pas la Finlande.
Ah ouais?
Ouais, parce qu'on a une ancienne bénévole de Radio Campus, Justine, qui a fait les Mouvements Zéro, diffusés sur Radio Campus, qui est partie justement à faire un voyage en Finlande, qu'elle a podcasté du coup. Et je sais qu'en ayant discuté avec elle, elle m'a dit que finalement, la Finlande, on a énormément de vues là-dessus. Ici en France, on se dit « Waouh, la Finlande, ils sont méga écologiques », mais en fait, des fois, il y a des désastres écologiques, notamment, où là-bas, il y a des forêts humides. Et en fait, t'as des tourbières. Et en fait, les tourbières, ils prennent des blocs pour les foutre dans le feu pour créer de l'énergie. Ah. Voilà, notamment. Et ça m'avait marqué quand on m'avait dit ça. Et elle m'a dit, mais en fait, finalement, c'est aussi un pays dans lequel il fait très, très froid. Donc, il y a aussi besoin de créer énormément d'énergie. Donc, de la chaleur pour pas crever de froid, littéralement. et du coup, forcément, pour moi, ça le déclasse tout de suite. Par contre, entre Costa Rica et le Bhoutan, je saurais pas dire.
Mais c'est vrai que tu as raison, parce que les pays nordiques, ce sont des pays qui sont considérés comme écolos, mais pas forcément pour les émissions carbone. Ils recyclent beaucoup, mais par contre pour tout ce qui est énergie.
Ils sont à fond vélo et tout, mais ouais,
totalement.
Mais en termes d'énergie, c'est une cata.
Faut qu'ils se chauffent, donc oui, ça
peut. Ouais, voilà.
Autant d'idées préconçues. Oh là là.
Vas-y, donne des petites infos. Bhoutan, Costa Rica, même Finlande, en vrai.
Alors,
ce que tu as.
La Finlande, elle va atteindre sa neutralité carbone pour 2035. Donc voilà, c'est pas encore tout de suite.
Ça va
se jouer forcément entre le Bhoutan et le Costa Rica plutôt. Et c'est un pays qui a déjà atteint sa neutralité carbone et qui est même négatif en émissions carbone. Ça veut dire qu'il a plus d'émissions carbone qu'il en rejette.
Genre il consomme moins d'une planète au total que...
Voilà, okay. En carbone vraiment il est incroyable pour ça.
Moi j'aurais plutôt dit... Je serais plus parti sur le Bhoutan. Ça me fait mal de le dire parce que je ne voulais pas suivre l'avis d'Erwan. J'étais vraiment convaincu que c'était la Finlande. Je me suis dit que la Finlande, c'était un pays incroyable. Et je pense que le Bhoutan, je pense surtout en avoir déjà entendu parler. Et
on se répartit.
Ouais.
Tu dis Bhoutan.
Ouais.
Et moi, je pars sur Costa Rica.
T'es sûr?
Oh, je sais pas. J'en ai aucune idée. Après, j'ai une question. Est-ce que le pays en question qu'on est en train de chercher, est-ce que du coup il est négatif en termes d'émissions parce qu'il y a des infrastructures hyper efficaces ou il y a une absence d'infrastructures?
Alors, c'est un pays qui s'est développé que très récemment. Il y avait une absence totale d'infrastructure. La première route, par exemple, elle a été créée dans les années 60.
Ok.
Ah oui.
Et justement, c'est un pays qui va avoir des problématiques dans les années à venir, parce que comme il se développe, il pollue énormément. Enfin, énormément, ça va, mais
d'accord.
De plus en plus.
C'est parce qu'ils sont au début, en fait. C'est pas qu'ils ont réinversé la course, c'est qu'ils sont au début. Ah ouais, ça m'aide pas. Ça va entre bouton et costa avec.
Ça m'aide pas tant que ça.
C'est le seul pays au monde qui a une capitale sans feu rouge. Je tiens à le préciser.
Sans feu rouge.
Voilà.
Si.
C'est le Bhoutan.
Le Bhoutan.
Ah, c'est clair, je pense que c'est le Bhoutan. Hein.
Ouais.
Et oui, vous avez totalement raison, c'est le Bhoutan, voilà.
Génial.
Donc, c'est le Bhoutan. Donc, d'un côté, il a énormément de forêts. 70% du territoire est couvert de forêts. Donc, pour donner une idée de taille, le Bhoutan, ça fait la taille de la Suisse. Mais il n'y a que 10% des habitants de la Suisse par rapport au Bhoutan. Donc, c'est vraiment beaucoup moins d'habitants. Ça explique cela. Et aussi, c'est aussi marqué dans la Constitution. C'est marqué dans la Constitution que 60% du Bhoutan doit être couvert de forêts vierges. Donc, ne peut pas être exploité.
Genre dans la Constitution,
c'est ça.
Oh, wow.
C'est quand même un pays qui...
C'est très engagé, ça.
C'est très engagé, totalement. Et même, c'est un pays qui a de plus en plus de voitures. Et ils font directement la transition vers des voitures électriques. Ils essaient d'éviter les voitures thermiques le plus
possible. Alors, la voiture électrique, c'est une fausse bonne idée, on le rappelle.
Ouais, totalement, oui. C'est vraiment une très mauvaise idée. Enfin, c'est pas une mauvaise idée, mais sa production est... catastrophique.
Et puis après, les batteries lithium, on sait toujours pas quoi en faire après leur utilisation. Enfin, alors c'est cool, ça fait pas de pollution, genre là, dans l'endroit où je me trouve, il n'y a pas de pot d'échappement. Par contre, en fait, la pollution, elle est ailleurs.
Ouais, bien sûr.
On déplace le problème,
c'est
voilà.
C'est une mauvaise solution pour essayer de pas changer nos conforts de vie, on va dire.
Bon, c'est pas forcément la voiture électrique qui pourra vraiment sauver le monde, mais je pense plus que c'est par...
le transport collectif.
Exactement. Le vélo, la marche, c'est génial. Enfin, ça en fait du sport. Et... Pourquoi pas?
Allons-y.
Et ben, on va pouvoir passer à la deuxième question. Donc là, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez continuer sur les émissions carbone ou partir un peu plus sur les océans?
Ah, vas-y, les océans. Qu'est-ce que t'en dis, Billy? Tu veux quoi?
Moi, les océans, j'aime bien.
Ok,
vas-y.
Alors, est-ce que vous... 71% de la surface de la planète est recouverte par l'eau, avec une profondeur moyenne de 3800 mètres.
Waouh.
Et l'écologie, forcément, ça rime énormément avec protection des océans, qui sont souvent victimes de la surpêche ou de la destruction des habitats. Et alors, est-ce que vous savez tout d'abord ce que c'est une ZEE ?
Vas-y, tu le sais, toi ?
Ouais, je crois que c'est une zone économique extraterrestre ou exploitable.
extraterrestre.
Exclusive.
Ouais. Exclusive. Exclusive, oui. C'est plus proche de chez nous.
Ouais.
Alors là, pour le coup, je vais vous demander... est-ce que vous pouvez me citer les trois plus grandes zones économiques exclusives au monde ?
J'en ai deux.
Ah.
T'en as toi ?
J'en ai une, mais je pense que tu l'as.
Vas-y.
Bah, j'allais dire, je sais qu'elle appartient à la France, parce que la France a énormément colonisé et a beaucoup pu avoir acquérir d'énormes zones exclusives, enfin ZEE, mais après j'ai pas d'autres idées.
Ouais, bah moi je me rappelle de mes cours de géographie de terminale où en effet c'est la France qui a la ZEE la plus élevée, la plus grande. Les États-Unis, je sais plus, sont troisième ou quatrième.
Alors les États-Unis sont premiers pour moi.
Ah, c'est les États-Unis qui sont premiers. Ah, ça m'étonne.
Ouais, premier.
J'aurais dit la France aussi.
Donc les États-Unis c'est 11 000 km², c'est quand même mieux km², et la France, 11 millions de kilomètres carrés, la France 10 millions. Oui.
Ah ouais, c'est juste en dessous.
Ça se joue à vraiment pas grand-chose.
Et après, pour les troisièmes, j'hésite entre la Russie et la Chine.
Ah, moi j'aurais plus dit la Chine.
T'aurais plus dit la Chine ?
Ouais, j'aurais plus dit la Chine. Parce que moi aussi j'ai fait mes cours d'histoire géographique.
La Chine était en 9e position.
Ok.
Normalement, dans les années à venir, la Chine veut étendre sa zone exclusive maritime, d'ailleurs, ce qui crée beaucoup de tensions dans la région.
Ouais.
Mais en top 3, c'est un pays qui n'est pas en Asie.
L'Australie, peut-être ?
Et oui, tu as totalement raison, c'est l'Australie. Voilà.
Great.
Et vous parliez de la Russie, alors la Russie est quatrième.
D'accord, c'est juste après,
Ouais, c'est ça.
Bah ouais, aussi, tout le nord de l'Europe, sur l'océan Arctique, il y a de la vue, quoi.
Et pour finir le top 5, c'est une ancienne puissance coloniale, puisque c'est le Royaume-Uni, en fait, qui a aussi énormément de zones économiques. Mm-hmm. Alors je vous en parle, parce que ça a fait beaucoup de débats l'année dernière, parce que c'est vrai que les zones économiques exclusives, c'est les États qui doivent protéger les droits dans ces zones-là.
Ouais.
Et la France, justement, voulait exploiter les fonds marins à l'aide d'énormes pelleteuses pour essayer d'avoir des hydrocarbures ou des minerais, ce qui a créé beaucoup de polémiques. Et la loi n'est pas passée.
Il n'y a pas eu aussi des essais nucléaires dans les années 60 ?
Si, totalement, sur les atolls d'Haïti, notamment.
Ouais.
Et les populations, on ressent encore les effets maintenant avec des taux de cancer.
Des cancers.
Ouais, voilà, assez élevés.
Je crois qu'il y a aussi d'autres problèmes. Enfin, là, ce n'est pas forcément directement lié aux ZEE, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Surtout en, par rapport à la France, il y a beaucoup de banditisme. Enfin, avec les pirates, comme c'est un peu éloigné de la France, il y a un peu de, beaucoup de pirates qui sont là-bas. Enfin,
c'est vrai qu'au niveau de la surpêche, tout, il y a beaucoup de braconnage. Et en fait, c'est des produits qu'on va retrouver dans, dans les circuits classiques après. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, qu'il faut essayer de prendre des produits de qualité. Okay. Alors, pour la troisième question, on va repasser sur les émissions carbone, mais là, au niveau national. Alors, j'aimerais... Est-ce que vous savez de quel secteur pollue le plus en France ? Nous, Français, dans quel secteur on émet le plus de CO2 ?
L'industrie.
Alors, l'industrie est en troisième position. Avec 18% des émissions de CO2, l'industrie est en troisième position.
Ok.
Donc, il y a deux secteurs avant. Oui. On en a un petit peu parlé tout à l'heure.
Transport ?
Transport, exactement.
C'est le premier ?
Oui, c'est okay. le premier.
Du coup, c'est quoi le deuxième ?
C'est l'agriculture.
L'agriculture, ok.
L'agriculture en premier. Parce que...
Oui, c'est vrai que l'agriculture, c'est quand même... Ouais.
Et on va dire, pour, par rapport aux accords de Paris, on va devoir baisser certains de ces secteurs en émissions de carbone. L'agriculture est celui qui va le moins bouger avec une baisse de 6%. Par contre, l'industrie aura une baisse de 30%. Ouais. Et les transports auront également une baisse de 20%. Mais le secteur qui va le plus être réduit, alors c'est un autre secteur, est-ce que vous l'avez peut-être ?
Alors là,
je peux vous en citer trois et vous avez...
Vas-y, vas-y.
Alors c'est entre le bâtiment, l'énergie ou les déchets. Dans quel secteur on peut faire le plus d'économies de d'émissions de CO2 ?
Le bâtiment, je pense.
Ouais, j'aurais tendance à dire aussi le bâtiment.
Et oui, totalement. Parce qu'en fait, le bâtiment, c'est un secteur qui émet énormément de déchets à recycler. Et là, on les met dans le secteur bâtiment et pas dans le secteur déchets dans ce cas-là. Eh bien, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Vous avez été plutôt brillant.
Merci.
Je pense qu'on peut dire qu'on est à 3 sur 3. Là.
Oui, oui, oui. Yay. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous parliez du bouton avant que je l'annonce. Donc, incroyable.
On est cultivationnés, nous.
Oui, oui, là, j'ai été assez impressionné. Là. Donc, merci beaucoup. Et là, je vais vous laisser sur la science infuse avec une petite musique de Gilo, Cold Pulse.